Question d'Islam par Al-Bunshir. Parmi les questions épineuses auxquelles est confrontée la pensée islamique d'une manière générale et toutes les analyses, il y a la question de la violence, de l'irruption du terrorisme dans les espaces et les contextes islamiques d'une manière générale, et aussi ce que j'ai eu l'occasion de nommer ici même et ailleurs la monstruosité idéologique religieuse qu'est nommée Daesh, cet acronyme arabe. Et nous n'avons pas trouvé meilleur que Kader Abderrahim, un fin connaisseur de ces questions, chercheur à l'IRIS, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, et de l'islamisme politique et des mouvements aussi violents. Il est maître de conférence à Sciences Po Paris, et il est aussi membre du Global Finder Expert des Nations Unies. Et cet organisme vise à faire des recommandations au secrétaire général de l'ONU sur le dialogue des civilisations et le rapprochement entre le Sud et le Nord. Kader Abderrahim, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci de nous faire l'amitié de venir pour parler de Daesh, il n'y a pas d'autre mot, afin de parler aussi de l'histoire, des enjeux et les pratiques de cette organisation dite État islamique, ce prétendu État islamique, le califat de la terreur. Vous avez écrit un ouvrage chez Erol Pratique, dans la collection Erol Pratique, chez Erol, pour le présenter aux lecteurs. Et donc, vous êtes venu aussi nous en parler. Qu'est-ce qui a motivé cette production ?
Une réflexion très simple, c'est dans les nombreuses conversations qu'on peut avoir autour de cette question, de ce sujet, dans mon entourage amical, familial ou avec des collègues chercheurs ou à l'université, avec toujours cette question lancinante qui revenait, c'est on ne comprend rien. Et cette idée que en réalité, la confusion était telle qu'on avait tendance à penser que tout se vaut et que tout est assimilable, l'histoire, la religion, les dynamiques des sociétés, l'histoire des peuples, l'histoire millénaire d'une région qui a vu naître quand même les trois grandes religions monothéistes. Et donc, progressivement, avec mon éditrice, la question était de savoir comment on pouvait participer à la compréhension, à la réintroduction de quelques éléments de base, en tout cas basiques, pour permettre à tout le monde d'avoir un minimum de culture sur des sujets qui sont, c'est vrai, complexes parce qu'ils font intervenir de nombreuses disciplines. L'histoire, j'en ai parlé, la philosophie, la théologie, mais également aujourd'hui, il faut aussi en tenir compte, la géopolitique, toutes les questions stratégiques, la dynamique des peuples. Enfin, vous voyez, il y a une grande interdisciplinarité à intégrer dans cette réflexion globale. Et donc, j'ai tenté de mettre en perspective d'abord l'histoire dans une première partie qui s'intitule « Qu'est-ce que l'islamisme ?» et puis en renvoyant à certain nombre de, je dirais, de piliers importants sur les grandes écoles juridiques, sur les tendances, sur ce qu'a été cette histoire moderne, contemporaine de cette région au moment où l'Empire ottoman déclinait. Et puis ensuite, je me suis plongé vraiment dans l'histoire contemporaine. Donc c'est un livre qui est assez facile d'accès parce qu'il permet des entrées multiples selon ses préoccupations ou ses intérêts, à la fois sur l'histoire, à la fois sur, je dirais, sur l'histoire de l'actualité récente, contemporaine, mais en même temps, il y a des chapitres qui sont consacrés à des questions un petit peu plus profondes, plus complexes, et sur lesquelles on doit bâtir notre réflexion et notre connaissance d'aujourd'hui.
Alors Kader Abderrahim, si je comprends bien, c'est d'abord mettre de l'ordre dans le fatras idéal et dans cette présentation de ces faits très complexes, et quand c'est complexe, où on se défausse sur le mot et on passe à autre chose et on n'a rien compris, où il faut se coltiner l'explication et on trouve qu'elle est interdisciplinaire. Vous avez bien fait aussi de dire que vous avez commencé par l'histoire contemporaine, de l'actualité brûlante, vous la faites remonter à plus d'un siècle, et vous nous parlez de l'islamisme. Outre le suffixe « isme » qui, pour certains grammairiens, étouffe la racine, voire l'anéantit, qu'est-ce que c'est que l'islamisme ?
Moi, j'aime à citer le roi du Maroc, le feu roi Hassan II, qui, dans un entretien un jour, a dit « Tous les musulmans sont des fondamentalistes, au sens de fondement. Alors je demande à mon peuple d'être raisonnablement fondamentaliste. » C'est-à-dire que, compte tenu de la charge symbolique qui est consubstantielle des Alaouites qui règnent au Maroc depuis près de 2 siècles, il y a évidemment cette légitimité religieuse. Et ça n'était pas neutre qu'un homme comme celui-là s'exprime en disant « Je demande à mon peuple d'être raisonnablement fondamentaliste, à la fois parce qu'il permettait éventuellement l'ouverture, le débat, la discussion sur un certain nombre de questions. Donc il réintroduit l'ijtihad, ce dont on nous dit que le débat est clos depuis au moins 10 siècles. Et en même temps, c'est une manière explicite d'admettre que les fondements sont les racines. Et que donc, à partir de là, c'est très difficile d'entrer en connexion, presque en complicité avec la manière dont nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que l'islam des origines est encore pertinent dans sa pratique quotidienne avec nos vies aujourd'hui au XXIe siècle, compte tenu des bouleversements que nous connaissons et des accélérations à la fois technologiques et historiques que nous sommes en train de vivre. Donc selon propos et visait aussi à être prudent sur qu'est-ce que l'islamisme. Si je prends la définition du petit Robert, on peut s'en contenter, mais c'est une vision un peu restrictive. Hein. C'est-à-dire, c'est là encore une manière de considérer qu'il y a des individus ou des groupes qui s'inscrivent dans une démarche politico-religieuse. Mais l'islamisme, c'est bien plus que ça, parce que tout l'imaginaire des musulmans, bon, je me suis concentré essentiellement au monde arabe, mais l'imaginaire des musulmans, il est, depuis la naissance, voire même avant, pendant la gestation, alimenté par à la fois la culture, l'islam, mais en même temps par la tradition, puisque nous sommes dans des environnements, dans des espaces, dans des aires culturelles, où la tradition, elle est globalement et essentiellement depuis des siècles, orale. Or, cette transmission orale, forcément, elle est dénaturée, déformée, pas de manière malhonnête, mais chacun restitue ce qu'il entend ou ce qu'il comprend. Donc, il y a évidemment un coefficient de pondération à poser lorsqu'on parle de l'islam. Et cette question de l'islamisme est un débat très ancien. Mais pour faire un peu lapidaire, oui, ce sont des groupes ou des individus qui s'inscrivent, qui se projettent dans une démarche politico-religieuse. Ajoutez à cela une dimension très nouvelle, très récente, c'est la présence d'importantes minorités musulmanes en Europe essentiellement, mais également en Occident. Et donc cette confrontation de la réalité occidentale avec l'imaginaire islamique de populations qui viennent du bassin méditerranéen très majoritairement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est malheureusement en train de devenir une confrontation. On est plus dans le réflexe que dans la réflexion, de part et d'autre d'ailleurs. Et cette difficulté est extrêmement compliquée parce que, évidemment, à l'échelle d'un être humain, pour moi qui suis historien, 70 ans, 90 ans, même 100 ans à l'échelle de l'histoire, c'est rien. Mais à l'échelle d'un être humain, évidemment, c'est considérable. Donc, si on met en perspective cette histoire sur un siècle, en gros, je la fais remonter à la création du mouvement des frères musulmans, la question de la confrontation de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain européen va être fondamentale, pas seulement pour l'avenir des relations entre les musulmans qui sont, rappelons-le quand même, minoritaires dans les sociétés occidentales, mais également de ce sur quoi l'islamisme de l'autre côté de la Méditerranée pourrait déboucher est absolument essentiel, parce que nous avons la chance de vivre aujourd'hui ici dans des espaces qui sont ouverts, démocratiques, où il y a un état de droit et une véritable liberté de pratique, de conscience, d'organisation éventuellement pour ceux qui le veulent. Et donc, c'est l'espace, c'est la possibilité de débat, de discussion et d'une liberté sur l'interprétation et surtout d'une liberté sur est-ce qu'on introduit dans l'islam des disciplines qui sont peut-être plus récentes comme la sociologie ou la philosophie hein, qui datent déjà de l'époque islamique, voire pré-islamique et qui nous permettent d'appréhender à la fois une culture, une démarche et une pratique à l'aune de réalités qui sont celles du 21e siècle. C'est un télescopage, c'est évident, parce que cette réforme, elle aurait pu se produire aussi au 18e siècle, au moment de la Révolution française, de l'apparition des Lumières et d'un certain nombre d'idéaux universalistes dans lesquels, incontestablement, l'islam a sa place. Parce que tous ceux qui disent que l'islam ne participe pas à la culture universelle sont dotés d'une bonne dose de mauvaise foi, parce que, rappelons-le, et c'est peut-être là, je dirais, la tragédie culturelle, peut-être civilisationnelle, c'est que l'islam a connu sa renaissance et qu'elle est en train de vivre son Moyen-Âge.
Oui, alors, soit ils sont dotés de mauvaise foi, soit frappés de cécité et une méconnaissance de l'histoire. Et c'est pour ça que l'histoire a son importance. Kader Abdelrahim, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais réagir sur trois points très brièvement. Le premier, quand vous avez évoqué la notion de la fermeture ou du fait du blocage ou de la clôture de l'ijtihad, cet effort d'interprétation, un effort intellectuel, cérébral, on n'est pas sûr actuellement qu'il y ait une proclamation de fermeture. Ça s'est fait comme ça à travers le temps. Le deuxième point, c'est...
Je vous interromps tout de suite parce que c'est une question essentielle, évidemment. Mais nous sommes aujourd'hui dans une perspective essentiellement politique où le rapport de force, il est favorable à ceux qui disent, qui proclament depuis longtemps que le débat est clos. Donc toute la question, évidemment, je crois que c'est l'enjeu majeur, c'est de leur dire peut-être, de porter la contradiction en disant « apportez-nous historiquement les faits qui vous permettent d'affirmer que le débat est clos. » Et si toutefois le débat est clos, il l'est pour tout le monde. Et il ne peut pas y avoir d'interprétation qui soit plus valable ou plus pertinente que la vôtre par rapport à la mienne.
Alors non seulement ce que vous dites est tout à fait pertinent, mais aussi dans la froideur d'esprit, le calme, la sérénité, il y a, je renvoie nos auditeurs à cet article de Studia Islamica intitulé « Petite genèse d'une grande fiction » qui consiste à chercher à faire l'investigation pour savoir quelle est l'autorité qui eut proclamé la clôture ou la fermeture de ce débat, etc. Et donc, on peut pas l'ouvrir d'un côté ou sur les questions crétinisantes et dire qu'il est fermé sur ce qui doit donner naissance à la réflexion et à l'intelligence. Le deuxième point, c'était une interrogation de ma part, hein, sur l'adverbe raisonnablement fondamentaliste. Est-ce que le fait d'être fondamentaliste et appelé un peu à la raison, à raisonner, ne serait pas oxymorique pour certains? Et le troisième point, c'est pour savoir si j'ai bien compris votre définition de l'islamisme, c'est une sorte d'idéologisation de la tradition en percevant dans la religion islamique un système politique aussi pour gérer les affaires dans la cité, parce que c'est un système globalisant.
Oui, je commence par le troisième point. Absolument, c'est une idéologisation. Et en réalité, il existe autant de courants politiques de l'islamisme qu'il y a de réalités sociales dans cet espace méditerranéen. Je vais en citer quelques-uns, mais je pense que tout le monde les a présents à l'esprit, nous comme les auditeurs. Si on prend ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, on est là dans une situation où la culture dominante est une culture populiste, voire par certains aspects révolutionnaires. Mais ça, c'est la culture politique de l'Algérie. C'est sa trajectoire historique. C'est la manière dont elle a recouvré sa souveraineté par un processus à la fois populiste et révolutionnaire qui se sont articulés dans lequel l'islam a joué un rôle important d'unification, de fédération des différents mouvements nationalistes. Si on prend le Maroc ou d'une manière générale les pétromonarchies, il y a un islamo-monarchisme incontestablement. Ça me permet de faire le lien avec votre second de remarque sur la citation que je faisais du roi Hassan II. Il y a évidemment une volonté ou une démarche qui est celle de l'instrumentalisation du religieux incontestablement. Elle se fait de la part de tout le monde, des responsables politiques comme des populations, incontestablement. La volonté de Hassan II était d'éviter l'éclatement, la disparité d'un islam qui lui échapperait, ce qui pouvait mettre en péril, évidemment, le pouvoir temporel dans le cas du Maroc. On pourrait parler d'islamo-conservateur pour ce qui est de la démarche des islamistes d'Ennahda en Tunisie. Et puis, plus on s'éloigne et plus les choses deviennent en réalité paradoxalement assez compliquées, notamment dans les pays du Golfe, parce que il faut introduire quelque chose qui n'existe pas dans cette région du monde, c'est que nous avons des États sans nations, des nations, des États sans frontières, sans histoire réelle. Donc ça introduit aussi une dimension qui est la culture. Comment on fait culture commune dans un espace où la culture bédouine est très conservatrice, ultra dominante, et que l'islam est arrivé là-dessus pour tenter là aussi d'unifier, ce qu'il est parvenu de manière assez contestable, voire contestée et en même temps assez marginale. Donc les traditions, les trajectoires de chacun des pays sont des réalités avec lesquelles il faut composer et avec lesquelles les dirigeants islamistes doivent composer parce que c'est cette réalité qui s'impose à eux et c'est avec cette réalité qu'ils doivent éventuellement, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, comme c'est le cas en Tunisie, comme c'était le cas en Égypte, comme ça a pu être le cas en Algérie, ils doivent composer avec leur société. Et parfois, il y a des distorsions parce que précisément, il n'y a pas de débat. Les choses se font de manière verticale. Alors, on nous dit que le débat est clos à propos de l'interprétation ou de la réinterprétation des textes. Mais même aujourd'hui, dans notre histoire contemporaine, c'est très compliqué pour les islamistes d'appréhender les demandes, les revendications de leur société. Est-ce qu'elles sont d'ordre social? Est-ce qu'elles sont d'ordre politique, économique? Éventuellement religieuse, même pas théologique. Religieuse, est-ce qu'il y a de la demande? Et là aussi, puisque nous avons un tout petit peu d'antériorité, revenons un instant sur ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, on mesure que la question de la religion était une question très marginale et n'était pas une revendication populaire. Très majoritairement, incontestablement, la revendication des Algériens, elle était pour une moralisation de la vie publique. Les revendications portaient sur les droits, les libertés individuelles et collectives, sur la notion d'état de droit, y compris même, ça peut être un débat, sur la notion d'état qui protège. Et donc, toutes ces questions-là n'avaient pas été anticipées par les islamistes qui sont très vite avérés qu'ils étaient incapables d'entrer dans ce dialogue avec leur société.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'historien et politiste Abkader Abderrahim, qui est chercheur à l'IRIS, maître de conférence à Sciences Po, membre du Global Finder Expert des Nations Unies, un organisme qui vise à faire des recommandations au secrétaire général de l'ONU sur le dialogue des civilisations et le rapprochement entre le Sud et le Nord. Kader Abderrahim, vous avez dit tout à l'heure que votre fresque historique vous l'a ramené dans la genèse de l'islamisme aux frères musulmans, donc on est en 1928. Vous ne pensez pas qu'il y a une proto-histoire avec le wahhabisme?
Absolument, bien sûr, bien sûr. Mais elle n'est pas de même nature. C'est important de...
Le wahhabisme étant le 18e siècle.
Oui, hein, donc... c'est antérieur à la fondation de la confrérie des frères musulmans. Ce ne sont pas les mêmes histoires, ce ne sont pas les mêmes trajectoires. Alors, le wahhabisme ne se projette pas dans l'histoire. Il se projette dans un espace géographique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein. Et cet espace, il est composé, encore une fois, de tribus qui, pendant des siècles, étaient rivales, qui faisaient des alliances ponctuelles, conjoncturelles, et qui avaient besoin, la nécessité avec l'historicisation de cet espace qui vit une accélération, notamment après la campagne de Bonaparte en Égypte, la présence de l'Empire ottoman pendant presque 10 siècles, impose à cette région du monde qu'il doit impérativement faire naître, faire émerger l'idée de l'unité. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on parle finalement assez peu de l'islam, mais beaucoup d'Abdelwahab, qui est un personnage évidemment historique central, vraiment cantonné à la région du Golfe, et qui, à travers une interprétation, une lecture extrêmement rigoriste, littéraliste, parvient à imposer une forme d'unité factice autour de cette interprétation. Et non pas, ce qui est important, la nuance est quand même essentielle, et non pas autour d'un socle de valeurs communes qui aurait pu permettre à ces dizaines de tribus qui vivent dans la péninsule de se projeter dans l'histoire. Là, en réalité, Abdelwahab fige l'histoire parce que cette alliance entre la maison des Saoud et ce qu'il considère être lui comme son interprétation la plus pertinente fige cette histoire, et on le voit presque 2 siècles après, il n'y a eu que très, très marginalement des évolutions, alors que c'est une région qui a connu, notamment après la découverte d'immenses ressources en hydrocarbures, des bouleversements à la fois géopolitiques exogènes, mais en même temps qui a imposé des bouleversements endogènes. Parce que tout d'un coup, il y a un télescopage entre ce que les Occidentaux apportent comme maîtrise de l'outil technologique pour exploiter les hydrocarbures et la réalité quotidienne vécue par ces populations bédouines à travers une culture tribale ancestrale. Et ce télescopage devient, quand on l'observe aujourd'hui et sur 2 siècles, une forme de schizophrénie islamo-wahhabite. Et c'est aujourd'hui la grande difficulté. En réalité, j'ai presque envie de dire que le wahhabisme est la caricature absolue de l'islamisme, parce qu'il n'y a pas de volonté réelle de se projeter dans l'histoire. Or, on le sait, les peuples qui n'ont pas cette capacité ni cette volonté finissent par disparaître.
Kader Abderrahim, à vous entendre, et non sans raison, vous le soulignez, le wahhabisme, ou la doctrine de Mohammed ibn Abdel Wahhab, 1703-1792, était une sorte de projection plutôt transversale dans la péninsule arabique, dans le désert du Najd. Donc c'est plutôt une dimension spatiale, géographique, et donc sans cette projection dans l'histoire. C'est quelque chose que Hassan al-Banna voulait rattraper ou récupérer, et l'islamisme à la sauce frère musulman, si je puis dire, essaiera de rattraper, récupérer la dimension historique et dans le temps ?
Ah, totalement. C'est l'anti-projet, c'est l'antithèse. Hassan al-Banna, fondateur de la confrérie des frères musulmans, c'est l'antithèse. Et il y a une raison assez évidente et assez simple. C'est d'abord parce qu'il est égyptien. Ce grand pays, histoire millénaire, profondément pétri, ancré dans une histoire qu'il souhaite incarner, mais avec un projet politique différent de celui qui était proposé jusque-là, même par les Ottomans, ou même par les différents monarques qui ont régné en Égypte, et qui étaient d'une certaine manière parfois aussi la projection de l'Empire ottoman. Donc oui, incontestablement, les frères musulmans ont une démarche historique, ce qui n'était pas le cas des wahhabites. Ça, c'est absolument incontestable. Et en même temps, encore une fois, l'histoire, c'est une discipline implacable. Quand on regarde aujourd'hui les grands bouleversements géostratégiques que nous vivons, et puis la recomposition qui est en cours, on mesure à quel point l'histoire pèse sur nos inconscients. Parce qu'il y a trois pays qui jouent un rôle majeur, qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire, qui jouent un rôle crucial aujourd'hui et qui vont incontestablement participer à cette recomposition et qui, comme par hasard, sont les trois grands pays qui incarnent historiquement le Moyen-Orient et qui sont l'Égypte, la Turquie et l'Iran, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran et qui était l'Empire perse pendant des millénaires. Donc, tout cela n'est pas neutre. Il y a une imbrication entre l'inconscient et l'histoire. Et pourtant, ça peut paraître paradoxal, parce que l'histoire, c'est tout sauf l'inconscient. L'histoire, c'est les faits, ce sont les archives, ce sont les chroniques. On le voit notamment dans l'Europe médiévale, avec cette volonté de tous les monarques de chroniquer leur temps pour transmettre. Et ils le font de manière extrêmement fidèle. Nous avons quasiment des minutes. Prenons un exemple d'un monarque qui a considérablement marqué l'histoire en Europe, dans l'Europe médiévale, qui est Charlemagne. Nous savons à peu près tout ce que nous avons besoin de savoir pour comprendre ce qu'était ce haut Moyen-Âge. Et pareil, dans cette région du monde, grâce aux Ottomans, il y a des chroniqueurs partout, à la fois dans le cœur de l'Empire, mais en même temps sur les marches de l'Empire, il y a des chroniqueurs qui nous rapportent les débats, les contradictions, les controverses entre théologiens, philosophes, savants, astronomes, qui font naître des débats que nous ne pouvons plus avoir aujourd'hui. C'est quand même ça le grand paradoxe. Nous sommes en réalité, malheureusement, j'ai la sensation que le monde arabe s'est inscrit aujourd'hui dans la historicité. Et donc, cette absence de projection autour d'un socle de valeurs communes a fait sortir les Arabes de l'histoire, probablement au moment de la campagne napoléonienne en Égypte, et que je vois dans ce qui s'est passé en 2011, dans ces grands bouleversements ou dans ces grandes mobilisations populaires, une volonté des sociétés, des individus, à la fois l'émergence de la citoyenneté et en même temps cette volonté de retrouver l'histoire et de se réinscrire dans l'histoire.
Kader Abdelrahim, nous aurons à revenir sur ces bouleversements, sur ces mots d'ordre qui peuvent être qualifiés de « on ne peut plus laïque », c'était la justice sociale, recouvrement de la dignité, bien entendu, et des droits fondamentaux. Tout en vous écoutant, je m'étais dit « et pourtant ?» Il y avait entre les deux grandes tendances, la première, celle du wahhabisme, la deuxième, celle des frères musulmans, eh bien, cette esquisse d'ébauche de tentative de réforme de la Nahda, avant que le mot ne fût usurpé par des partis politiques qui ont cru scruter la volonté de Dieu et pénétrer son désir politique. Et pourquoi, selon vous, c'est une question que je ne cesse de poser à nos invités, l'élan de foi, d'espérance, d'intelligence de la Nahda n'a pas abouti?
Il n'y a aucune...
Un terme qu'il faut traduire, oui, comme renouveau, résurrection, renaissance...
Alors, si vous m'y autorisez, Ralph, je voudrais juste citer dans le chapitre 4, page 28 du livre, ce que je dis de la Nahda. Parce qu'on a toujours la sensation, lorsqu'on parle de la Nahda, que c'est limité. Il y a une limitation. Or, c'est tout le contraire, c'est ce que je tentais d'expliquer il y a un instant. La Nahda menée au 19e siècle par un général arabe est un mouvement à la fois littéraire, politique, culturel et religieux. Et la question religieuse est une question parmi d'autres. Donc, il y a une démarche qu'on peut qualifier d'intellectuelle au sens plein du terme, parce qu'il y a débat, parce qu'il y a discussion, parce qu'il y a confrontation des idées. On peut dire que la Nahda est tout cela à la fois et que la question religieuse y est présente indéniablement, mais elle n'est pas au centre des controverses ou des débats. Je crois que c'est très important de rappeler que il y a eu évidemment à la fois des tentatives, des démarches, des volontés qui ont pu s'affronter à des réalités politiques et qui ont avorté. Mais cette Nahda, elle est indéniablement la volonté peut-être de remettre en marche le monde musulman, de le lui redonner son historicité, de le projeter dans l'histoire qui vient. Pourquoi elle échoue? Elle échoue pour une raison principale, c'est que le colonialisme européen, évidemment, apporte une grande violence culturelle et politique, et que pendant presque deux siècles, il va y avoir une sorte de mise entre parenthèses de cet espace culturel qui ne parviendra en réalité jamais à reconstruire une Nahda qui tienne compte de tout ce que je viens de dire à l'instant, d'une manière savante, lettrée. La question de la religion, encore une fois, est une question importante, mais elle en est une parmi d'autres. Pourquoi ? Là aussi, si nous plongeons dans l'histoire, remontons jusqu'aux empires andalous, les mêmes débats existaient déjà. Et on y introduisait à nouveau la question des lettres, la question des astronomes, des philosophes, etc. Et la question religieuse, donc l'interdisciplinarité de la démarche sur la question de la réforme, elle est très ancienne, elle n'est pas nouvelle. Pourquoi tout d'un coup on se heurte aujourd'hui, et disons depuis à peu près un siècle et demi, à ce mur du refus, à ce front du refus, comme on disait dans les années 70, à ce front du refus qui refuse obstinément tout débat, toute discussion, toute controverse. Il y a eu au Moyen-Âge une controverse que tous les auditeurs connaissent forcément sur ce qu'on a appelé la controverse de Valladolid, sur la question de savoir, en Espagne notamment, sur la question de savoir si les Indiens avaient une âme ou pas. Et puis ça a donné lieu à des débats évidemment passionnants sur le plan religieux, mais pas seulement. Il y avait là une volonté aussi d'introduire cette idée, cette notion qu'il y avait des catégories humaines. Et finalement, ce à quoi cela aboutit, indépendamment du résultat, qui n'est pas très important, c'est que cela aboutit à faire projeter, à faire plonger les peuples chrétiens dans la réflexion. Encore une fois, et non pas dans le réflexe. Nous ne sommes pas nécessairement supérieurs parce que nous sommes issus d'une culture dominante dans un contexte historique où le catholicisme est ultra dominant. Et c'est la même chose pour l'islam. Et je vois et je lis encore une fois en tant qu'historien cette expérience, il faut l'appeler comme ça, des empires andalous comme une volonté précisément de ne pas se projeter comme une culture dominatrice ou même dominante. On doit s'interroger. C'est un peu ça que je crois qu'on appelle, cher Ralph, le djihad.
Le djihad, c'est un effort nécessité. Étymologiquement. Et vous dites dans votre ouvrage, et vous, je n'y ai pas pensé, mais là je vous pose la question, vous dites qu'il vaut mieux parler de terroristes et de violences religieuses que de djihad, parce que son exception première est effectivement faire un effort. Je reviens, si vous voulez bien, cher Kader Abdelrahim, sur l'échec de la Nahda, et après nous passerons à ce qui nous intéresse. Parmi les raisons extrinsèques, c'est effectivement le colonialisme et sa violence culturelle et politique. Et ceci est indéniable, et de ce point de vue, le colonialisme devient une abomination absolue. Y a-t-il des raisons intrinsèques? Puisque d'aucuns disent la vision a été plutôt pan-arabe, et donc c'est pan-arabisme et non pas le pan-islamisme. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de le rattraper en étendant l'espace. Et le second point, c'est que au niveau de la donne religieuse, qui est une parmi d'autres, on a, au lieu de mettre la religion dans les limites de la raison, on a fait plutôt l'inverse. C'était plutôt la raison sous la coupe de la révélation.
Oui, c'est un grand débat philosophique qui comporte également une dimension historique. Qui de la raison ou de la religion, hein, c'est une question absolument centrale. Il y a des débats depuis Nietzsche sur cette question de la révélation, du religieux, de l'existence de Dieu. Et un certain nombre de philosophes ont tranché le débat en disant, compte tenu du niveau d'évolution et de connaissances technologiques et scientifiques auxquelles est parvenue aujourd'hui l'humanité, nous ne sommes pas parvenus à démontrer scientifiquement l'existence de Dieu. Donc, cette rationalité, elle peut être aussi un obstacle pour explorer, je dirais, à la fois l'intime, mais également pour explorer quelque chose qui est de l'ordre simplement de l'intuition, du ressenti de chaque humain. Donc, oui, il faut introduire de la raison, mais en même temps, je pense que la raison, elle aussi, a ses limites, parce que sinon, elle devient un totalitarisme. Il faut laisser la possibilité à chacun de décider, de choisir dans son être intime comment il tranche cette question-là. Pourquoi ça n'est pas possible dans cet espace culturel qu'est le monde méditerranéen, qu'est le monde musulman? Pour une raison très simple, c'est que nous n'avons toujours pas permis l'émergence de l'individu. Donc de cette idée, de cette notion qui a été introduite en 1789 et qu'on appelle la citoyenneté. Et tout le débat, encore une fois, je suis très optimiste, tout le débat qui se pose depuis 2011, c'est celui-là. Tout le reste, c'est de la littérature, de la mauvaise littérature la plupart du temps. Et cette question-là, elle est absolument centrale, essentielle et fondamentale, et elle va conditionner l'évolution à la fois de cet espace géopolitique, mais en même temps, elle va conditionner la capacité ou non de ces pays à se projeter à nouveau dans l'histoire par un projet collectif qui sera accepté par chacun parce qu'on lui permettra d'être un individu citoyen, donc libre. Pour revenir à votre question, le religieux sous la coupe de la raison. C'est dialectique. Parfois, ça peut être l'inverse, encore une fois, parce que nous sommes dans des notions qui sont extrêmement subjectives, qui font appel à des choses que nous ne maîtrisons pas tous ou pas toujours. L'inconscient, l'imaginaire, la transmission. Et puis, il y a aussi l'exogène qui conditionne beaucoup notre comportement. Est-ce que cette Nahda a échoué parce que c'est la raison qui s'est imposé, ou est-ce que la Nahda a échoué parce que dans cet espace politique, il n'y avait pas la possibilité d'aller au bout de cette démarche, encore une fois, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'en réalité, on ne parvient pas à entrer en communion, pour reprendre une expression qu'on peut comprendre ici, avec ceux pour lesquels il est essentiel de parvenir à des réformes communément admise et acceptée, avec des valeurs communes qui soient largement partagées et acceptées et non pas imposées.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'historien et le politiste Kader Abdelrahim, chercheur à l'IRIS, maître de conférence à Sciences Po, Paris. Il est également membre du Global Finder Expert des Nations Unies qui vise à faire des recommandations au secrétaire général de l'ONU sur le dialogue des civilisations et le rapprochement entre le Sud et le Nord. À ce sujet, Kader Abdelrahim, si les civilisations peuvent dialoguer entre elles comme des entités autonomes, rien ne les empêche d'entrer en collision et qu'il y ait un clash. C'est la notion même, peut-être, du dialogue et du choc qui est à revoir, parce que les espaces civilisationnels sont composés d'hommes et de femmes qui, pour certains, sont pour l'ouverture, l'intelligence, l'autonomie du sujet, les droits fondamentaux de la personne humaine, et d'autres qui sont contre l'altérité, qui sont contre... non seulement autrui, mais cette ouverture, etc. On ne corrobore pas, à contrario et en creux, la notion du clash ou du choc des civilisations en appelant au dialogue entre elles ?
Non, je ne crois pas. On a un désaccord, mais ce n'est pas grave.
Non, c'est une question que je pose.
Oui.
Et à supposer qu'il y ait un désaccord, il devient le lieu de la médiation et de l'intelligence.
Si, encore une fois, si on est... sincère et honnête avec soi-même, l'idée du débat est une idée absolument centrale dans notre vie quotidienne, y compris lorsqu'elle va jusqu'à la confrontation, tant que c'est un débat d'idées. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce momentum historique. Nous sommes dans des rapports qui sont exclusivement des rapports, au mieux des rapports de force, au pire de la violence politique et sociale qui s'exerce sur les sociétés, très principalement. Il n'y a pas de confrontation politique, c'est faux. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde arabe ? Un tas de cendres qui est le résultat d'une lente et longue consommation des idées. Il n'y a plus de débat, plus de discussion, plus d'idées. Tout le monde refuse la confrontation au profit d'un quelque chose qui serait immanent, quel que soit le nom qu'on lui donne, peu importe, et quelle que soit la démarche qu'on adopte, et qui nous plonge tous dans une confrontation que la plupart du temps, nous n'avons pas voulu. Donc, à propos de ce qui s'était passé en Algérie dans les années 90, et c'est pas uniquement de la sémantique, j'avais longuement écrit et contesté cette idée qu'il s'agissait d'une guerre civile. En réalité, il s'agissait d'une guerre contre les civils. Ça illustre ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire deux groupes qui se font la guerre pour le pouvoir. Et au milieu, 30 millions de personnes, que les uns et les autres, le pouvoir algérien d'un côté, incarné par une armée prétorienne, et de l'autre côté, des groupes armés terroristes qui tentent de faire basculer la population, chacun des groupes de son côté. Et dans cette démarche d'une extrême violence, les Algériens ont précisément eu intuitivement la sagesse de comprendre que ce n'était pas un débat religieux ou politique ou théologique, ou éventuellement pour les idées, mais exclusivement un débat pour le pouvoir. Et ça illustre ce que je disais à l'instant. Nous ne sommes plus que dans des confrontations permanentes. Et cette idée est insupportable parce que dans cette confrontation, j'ai écrit précisément un avant-propos pour expliquer pourquoi les mots sont importants, pourquoi ils sont chargés et de symboles et de violence, et pourquoi je n'utilise jamais, parlant des terroristes, la notion de djihad. J'en étais convaincu avant, mais je l'étais encore plus en préparant ce livre, après une longue discussion avec un friya dans la ville de Fès, qui m'expliquait pourquoi...
Un friya étant une sorte de jurisconsulte, un homme religieux.
Un savant de la religion, des textes. Et il me dit, tu sais, ce n'est pas parce que des groupes ou des individus s'autoproclament qu'ils sont représentatifs. Donc, il ne faut pas leur donner cette qualité. Tous les musulmans sont des djihadistes. Et ils doivent l'être, c'est un impératif. Qu'est-ce que c'est le djihad après tout? C'est le questionnement. C'est le questionnement. Est-ce que je me suis bien comporté aujourd'hui avec ma famille, avec ma femme, avec mon voisin, avec mes collègues de travail? C'est une démarche permanente. Tous les musulmans sont des djihadistes. Ça nous renvoie, si vous me permettez, à ce que je disais au début de cette discussion, en citant Hassan II, tous les musulmans sont des fondamentalistes. Et donc, soyons raisonnablement fondamentalistes, mais impérativement djihadistes.
Alors, dans le sens premier du terme, parce que, hélas, certains disent le mot a été, et on le regrette, corrompu, qu'il faut l'oublier à jamais, qu'il a perdu à jamais sa notion et sa signification. D'autres disent, et c'est ce que vous faites, qu'il n'y a aucune raison de laisser les terroristes l'usurper et qu'il faut tout faire pour qu'il recouvre son sens premier de cet effort contre les mauvais penchants, juguler sa passion, réguler ses désirs, se maîtriser soi-même et a fortiori au moment de la colère et par un temps de violence. Maintenant, dans cette partie-là de notre discussion, revenons à cette monstruosité de Daesh, un acronyme arabe, pour la première fois qu'une langue sémitique s'apprête à un acronyme qui n'a pas de sens. Le précédent premier, Hamas, veut dire à tout le moins le mouvement de la résistance islamique et qui veut dire aussi ferveur, enthousiasme, excès de zèle. Là, ça n'a pas de sens avec Daesh. Ça rime avec Fahesh qui veut dire pervers, mais ça c'est autre chose. Et vous pensez, ça c'est ma question, qu'on est là une sorte d'enfantement dans la douleur comme un acmé, comme un point paroxystique, une convulsion de la violence pour aboutir, puisque vous êtes foncièrement optimiste, à ce que les notions de citoyenneté, d'autonomie du sujet, de droits fondamentaux de la personne humaine puissent être récupérées, réappropriées, recouvrées dans le monde arabo-islamique.
Oui et non. Oui, parce que à travers l'histoire, tous les peuples, toutes les sociétés se sont construites à un moment ou à un autre par la violence. Cette confrontation, malheureusement, malgré tout ce qu'on peut dire sur les évolutions des êtres humains, est toujours un passage. Il n'est pas obligé, mais il est toujours un passage dans la construction des nations, dans la manière dont on tente d'apprendre à vivre en communauté, au sens premier du terme, et pas au sens anglo-saxon du terme. Et puis, non, parce que il n'y a pas de fatalité. On peut, je pense, en réintroduisant de la politique à travers un processus historique, s'éviter ces tragédies, ces drames. Je prends juste un exemple ici. Pour la conscience humaine, c'est quand même insupportable de se dire qu'un pays comme l'Irak est en guerre sans discontinuer depuis 1980. Depuis 1980.
Ce que d'aucuns appellent la première guerre du Golfe.
Absolument, entre l'Iran et l'Irak. Et donc aujourd'hui, quelles sont les conséquences? Dans quel processus s'inscrit cette région du Moyen-Orient tellement tourmentée? Des convulsions, il y en a eu beaucoup et il y en aura encore beaucoup. La seule différence, c'est que nous sommes aujourd'hui face à un mouvement proto-État qui a tous les attributs d'un État, quasiment des frontières, puisqu'il contrôle un champ entier du territoire irakien, un drapeau, il bat la monnaie, il rend la justice, il a une armée. Donc oui, c'est un proto-État. Dans cette idée de proto-État, est-ce que Daesh recherche la reconnaissance de ses semblables? Est-ce qu'il veut être reconnu aux Nations Unies? Pas du tout. C'est la première fois que nous sommes confrontés à une organisation politico-terroriste qui dit « Je n'accepte pas la règle du jeu international. Je n'accepte pas les frontières héritées de la colonisation. » Et probablement le plus important, c'est le troisième message. Il n'y en a que trois, vous savez, ils sont très simples. Et c'est le plus important et c'est celui-là qui résonne le plus dans l'esprit et dans l'imaginaire des Arabes, c'est « Nous contestons la suprématie occidentale dans l'universalisme tel qu'il existe aujourd'hui, parce que nous, musulmans, nous avons aussi à la fois un imaginaire et un universalisme à apporter à l'humanité. » Sauf que on n'entre pas, pourquoi pas à la limite, je peux tout à fait entendre qu'il y a dans l'universalisme des courants, des histoires, des civilisations qui peuvent être complémentaires à travers le temps. Mais là, il ne s'agit pas de cela du tout. Il s'agit d'une mode démarche totalitaire. On cherche à imposer et non pas à discuter, ni même à négocier. Et donc, on ne peut pas l'accepter. Et c'est inacceptable. Donc, la question aujourd'hui, elle n'est pas militaire. Malheureusement, évidemment, ça fait des drames terribles. Il n'y a pas de doute sur la défaite militaire de Daesh. En revanche, la grande question, je reviens toujours, c'est quasiment c'est pas juste un leitmotiv, c'est presque une obsession pour moi en tant que chercheur. Qu'est-ce que nous proposerons lorsque la défaite de militaires sera une réalité? Parce que son projet politique lui survivra. Et probablement, ce qui viendra après Daesh sera encore plus violent. Parce que ce que l'on commence à voir depuis quelques mois sur les réseaux sociaux notamment, c'est l'instrumentalisation de très jeunes enfants que l'on prépare à la violence dès l'âge de 9 ans. Et donc, qu'est-ce que l'on construit dans l'imaginaire de ces enfants? Des prisons mentales dont ils ne pourront pas sortir. Et donc, pour eux, la violence est le prolongement naturel, c'est terrible de parler comme ça, et le prolongement naturel de ce que on leur a enseigné et transmis.
Alors, Kader Abdelrahim, hélas, nous arrivons au terme de notre émission. Vous qui êtes optimiste, y compris comme chercheur, avec vos obsessions, mais ça c'est la rigueur académique qui vous caractérise, nous aurons, si vous le voulez bien, à aborder ces questions plutôt d'ouverture et des propositions que vous entrevoyez, mais dans une autre émission. Aujourd'hui, je renvoie nos chers amis auditeurs à votre ouvrage chez Erol, Daesh, histoire, enjeux et pratiques de l'organisation de l'État islamique dans la collection Histoire et rôle pratique. C'était question d'islam. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée par Julien Doumain. Et la réalisation est toujours assumée avec et par l'ami Franck Lilin.
والحرام ما تدوم العام خليم بلاد الويشة ارجع في الماتع. هذا وعدو مسكين خليه مباراة درويشة ارجع في الله تعالى.